dans la philosophie bouddhiste, ce qui est essentiel ou important, c'est d'explorer le fonctionnement de notre esprit. Entreprendre de connaître l'esprit, c'est un petit peu le point de départ de la méditation. Pour le Bouddha, tout commence par les pensées. C'est les pensées qui nous construisent et c'est avec les pensées qu'on construit le monde. Et la source de nos difficultés, elle est bien souvent pas tellement dans ce qu'on est amené à vivre, mais plutôt dans nos représentations et puis dans ce qu'on rajoute, hein, avec la pensée. Bien souvent, c'est nos pensées qui nous rendent malheureux. Et c'est là, en tout cas, que le Bouddha situe la source de la souffrance, à l'intérieur de l'esprit. Et puis, ben, c'est pareil pour ce qui va nous faire du bien et nous rendre heureux. Ça se trouve aussi à l'intérieur de nous. Donc, au fond, pour le Bouddha, tout est dans l'esprit. Donc, on explore avec l'exercice cette différence entre voir et puis croire. Devenir conscient des pensées, apprendre à connaître notre esprit, nos habitudes mentales, et puis ne plus donner tout le crédit à nos réactions, à nos pensées. Et ce qu'on peut remarquer quand on fait ça, c'est que voir le monde en termes personnels, ça m'arrive à moi, c'est à propos de moi, c'est ma faute ou c'est sa faute. Chercher la perfection, hein, courir après le plaisir et puis prendre pour permanence ce qui est tout le temps en train de changer. Eh bien ça nous amène pas mal de difficultés. C'est une illusion et puis c'est la source de beaucoup de souffrance. Donc une grande partie du travail de la méditation, ça va être de savoir faire la différence en fait entre ce qui est vrai et puis ce qui est l'illusion. Et l'illusion, c'est elle qui fait passer le film de notre vie pour la réalité. Hein, ce qu'on pense, toutes les histoires qu'on se raconte sur qui on est, sur ce qu'on devrait accomplir, sur notre situation dans le monde. L'illusion nous fait prendre ces pensées-là pour la réalité. Et c'est ça qui, généralement, amène beaucoup de difficultés et de complications. Donc, si on veut être bien avec ce qu'on est amené à vivre, si on veut nous rendre libres de ce qui entrave notre bonheur ou notre paix, ce qu'on doit faire, c'est nous affranchir de cette partie en fait de l'esprit qui est constamment sous l'occupation des pensées. Cette partie de l'esprit qui est préoccupée par moi, mes affaires, les affaires du monde, qui est constamment emportée en fait par un torrent de pensées et de représentations. Et dans la philosophie bouddhiste, l'esprit, il a comme deux facettes. Il y a un aspect relatif, c'est la partie du mental qui émet beaucoup d'opinions, de commentaires, de considérations, qui tire des conclusions, qui a tout un tas d'idées préconçues, des choses. Et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect ultime. Et l'aspect ultime, c'est plus la partie de l'esprit qui reçoit l'expérience dans l'instant, qui communique vraiment avec ce qui est en train de se passer pendant que ça se passe. Donc il y a comme d'un côté le monde des pensées, le penser, et puis d'un autre côté le ressenti, le sentir. Et puis ben, ces deux mondes, ils coexistent dans l'esprit. Et le problème, il vient pas tellement du fait qu'il y a des pensées qu'on pense, parce que c'est vraiment dans la nature de l'esprit, en fait, de créer, de fabriquer des pensées. Le problème, il vient plutôt du fait qu'on croit, en fait, chaque pensée qui nous vient en tête. Et puis qu'on prend les pensées pour la réalité. On oublie que c'est un aperçu à un moment donné, que c'est conditionné, que c'est subjectif. Donc, ce qui va beaucoup nous aider à vivre notre vie avec un peu plus d'aisance, ça va être d'apprendre à voir les opinions, les interprétations pour des opinions, des interprétations, juste ça. Ce qui va nous aider, c'est de ne pas donner à nos réactions tellement de vérité, pas intensifier les émotions, ça va nous aider à diminuer la souffrance, à éviter d'accroître. Donc quand on prend le drame, toutes ces histoires qu'on se raconte pour la réalité, c'est là en fait que les difficultés commencent. C'est ce qui nous rend la vie compliquée. Et ce que nous dit le Bouddha, c'est que pour que la vérité se révèle à nous, ce qu'on a à faire, c'est simplement à devenir sensible à ce qui est en train de se passer là maintenant. Donc, aller toucher la texture physique du moment présent, ressentir l'expérience agréable, désagréable, neutre, au fur et à mesure qu'elle se déroule. Et quand on a comme ça l'esprit sincèrement ouvert et réceptif à ce qui est dans l'instant, on peut sentir une plus grande disponibilité et une plus grande confiance dans les choses comme elles sont. On est disponible à la vie. Et on peut de cette façon-là goûter à la liberté et puis au calme. Donc quand on pose l'attention sur le troisième fondement, l'esprit, ce qu'on voit d'abord, c'est qu'on ne connaît pas grand-chose, en fait, du fonctionnement de notre esprit. C'est quelque chose qui est tout près de nous, mais c'est quelque chose dont on ne connaît pas bien le fonctionnement. Quand on est comme ça, sous l'occupation des pensées, on ignore, en fait, tout de notre vraie nature. C'est comme si on était, depuis toujours, dans une pièce plongée dans l'obscurité. Et le manque de lumière nous empêche finalement de voir clairement. Donc il suffit simplement qu'on allume la lumière pour que déjà les choses s'éclairent. Et ça, c'est ce que le Bouddha il a entrepris de faire en fait. Pour sortir de l'illusion, il s'est tourné vers la partie de l'esprit qui est confuse et puis il a travaillé sur elle, agi sur elle. Et ce qui est assez fascinant, c'est que ce qui est confus à l'intérieur de nous, c'est au même endroit, ça se trouve au même endroit que ce qui connaît, ce qui est complètement clair et lumineux. Tout est dans l'esprit. Donc on a tout là maintenant, en fait, pour nous rendre libres des conditionnements et puis être plus heureux. Faire notre part au mieux. Donc c'est vraiment en acceptant la confusion, en nous ouvrant à cette énergie, en plongeant au cœur de la confusion, qu'on peut trouver la clarté et la tranquillité. Je vais vous lire une parole d'Ajahn Fumedo. En ouvrant notre esprit, en lâchant prise, nous portons notre attention sur un point unique. Nous sommes un simple observateur, le témoin silencieux et conscient de ce qui va et vient. Avec Vipassana, la vision pénétrante, nous utilisons les trois caractéristiques de l'existence, anicca, le changement, Dukkha, le caractère insatisfaisant, et Anatta, l'absence d'identité propre, pour observer les phénomènes relatifs au corps et au mental. Nous libérons ainsi l'esprit de sa tendance à refouler les choses aveuglément. Si nous faisons une obsession sur des pensées futiles, par exemple, ou sur des peurs, des doutes, des angoisses ou de la colère, il ne sera pas utile de les analyser. Nous n'avons pas à comprendre pourquoi ces pensées nous obsèdent, simplement à les amener sous le projecteur de la conscience. Si vous avez très peur de quelque chose, ayez-en peur consciemment. N'évitez pas d'y penser, observez plutôt votre désir de vous en débarrasser. Faites complètement remonter à la surface ce qui vous fait peur. Pensez-y délibérément et écoutez-vous penser. Il ne s'agit pas d'analyser cette peur, mais de l'amener jusqu'au bout absurde de son parcours. Écoutez aussi le désir, cette pensée folle qui dit « je veux ceci, je veux cela, il faut absolument que je l'aie. Je ne sais pas ce que je ferai si je ne l'obtiens pas. » Parfois l'esprit se met à hurler « je le veux » et vous êtes simplement là à écouter. Quand vous en êtes capable, vous voyez clairement que vos problèmes ne sont pas personnels. Mentalement, nous pouvons amener la peur et la colère jusqu'à leur limite et voir alors qu'elles ne sont qu'un enchaînement naturel de pensées. Nous accueillons délibérément toutes les choses dont nous avons peur, non pas aveuglément, mais en témoins, en les écoutant et les observant comme les conditions mentales qu'elles sont, et non comme des problèmes ou des échecs personnels. Donc l'invitation dans la pratique du Vipassana, c'est vraiment ça, d'apprendre à connaître les pensées pour ce qu'elles sont, des conditions qui émergent dans l'instant, qui durent un temps et puis qui changent. Connaître l'esprit, connaître son fonctionnement pour ensuite arriver à l'éduquer, à traduire ce qui est vraiment en train de se passer. Ça veut dire suivre l'expérience pendant qu'elle se déroule au lieu de se l'approprier et puis de chercher à la contrôler. Lâcher les représentations pour aller sentir, ressentir l'expérience agréable, désagréable, neutre. Et c'est de cette façon-là qu'on peut libérer l'esprit de l'illusion. Et puis tout le long de ce chemin, pour connaître, éduquer, libérer l'esprit, ben notre outil principal, ça va être l'attention ou la pleine conscience. Et ce que l'attention va principalement faire, c'est cultiver et renforcer un état d'esprit qui est réceptif. Donc l'idée, c'est de venir nous asseoir avec un bol vide. L'attention, elle ne présuppose de rien. Il y a juste cette disponibilité et curiosité à vivre les choses comme elles apparaissent. Et puis à les laisser aller. Simplement habiter ce qui est là. Et puis lâcher tout ce qu'on peut rajouter à l'expérience. Et les conditionnements de l'esprit, c'est beaucoup des habitudes mentales réactives. On réagit à ce qui nous est agréable ou désagréable. On se lie mentalement à l'expérience et on cherche finalement à arranger les choses pour être un peu moins inconfortable. La tendance, c'est vraiment d'intervenir et puis de chercher à contrôler l'expérience. Pour ne pas être trop mise à l'étroit, nous précipiter dans l'action sans nous laisser juste le temps en fait d'être touchés, puis nous ouvrir à ce qui est là en train de trembler à l'intérieur, nous ouvrir à nos émotions. Donc on fait généralement tout, sauf de laisser les choses suivre leur cours. Donc former et éduquer l'esprit, ça va beaucoup être de changer ses habitudes-là, et puis de cultiver cette attitude de tout laisser tel que c'est. Laisser aller les choses, juste devenir témoin de tous ces mouvements de l'esprit. Le défi dans la méditation, ça va être de créer de la santé mentale. Donc nous donner suffisamment d'espace à l'intérieur pour mieux gérer ce qui nous arrive dans nos vies. Donc l'invitation du Bouddha, c'est d'apprendre à être à l'écoute de ce qu'on est en train d'éprouver dans l'instant, sans nous laisser emporter par les commentaires, en fait, par toutes ces constructions mentales. Et quand l'habitude est de commenter, d'analyser les choses en vue d'un certain résultat, quand l'habitude est de regretter, de s'inquiéter ou de rêvasser, ce qu'on va chercher à donner comme nouvelle habitude à l'esprit, c'est de simplement se tourner vers ce qui est en train de se passer. De faire face au présent sans nous réfugier dans le passé ou dans le futur. Donc quand il y a par exemple du doute, ou bien quand il y a de la confusion, ou bien quand il y a de la colère, plutôt que de chercher une solution avec la pensée, ce qu'on va faire, c'est éduquer l'esprit à rester au contact finalement de l'énergie du doute, faire face au présent sans être dans le refuge de la pensée. Prêter attention au doute plutôt que écouter en fait les pensées, les histoires qui se créent autour du doute. Et puis cette présence, ici et maintenant, aux choses comme elles sont, ça donne à l'esprit une chance d'avoir une vue un peu plus globale de la situation, un peu plus étendue, plus large des choses. Et ça nous permet de voir que le doute ou la colère ou la confusion, ça n'a rien de personnel. C'est vraiment du domaine public. Et c'est pas quelque chose qui est permanent, c'est là à un moment donné, puis après ça change. Et quand on peut rencontrer de cette façon-là l'expérience du doute ou l'expérience de la colère, on peut aussi découvrir voilà, tous les trésors qui se cachent derrière cette énergie. Ça peut être une occasion d'apprendre. Et du coup, ça nous permet d'accepter l'expérience du doute dans son imperfection. Et à moins cet attachement à un aspect idéal des choses. Il y a une parole de Jnanaponika Thera au sujet de l'attention. L'attention pure, demeurant fidèlement à son poste d'observation, surveille calmement et sans attachement la marche incessante du temps. Elle libère l'homme des entraves qu'il essaye stupidement de renforcer en regardant trop fréquemment en arrière avec des yeux chargés de désirs, de ressentiments, de regrets. L'attention juste empêche l'homme de s'enchaîner, même maintenant, par l'imagination de ses craintes et de ses espoirs quant aux événements anticipés de l'avenir. Ainsi, l'attention juste restitue à l'homme une liberté qui ne se trouve que dans le présent. Donc, c'est encore une fois le moment présent qui va être le terreau de notre libération. C'est vraiment dans l'instant, dans la réalité du présent, qu'on peut trouver la paix et puis se sentir relié à soi-même et puis au monde. Et ce qui va nous ancrer dans l'instant présent, c'est nos sens. Donc on peut dire que la méditation, quelque part, ça va être sortir de notre mental pour nous attacher à nos sens, hein, aux impressions qui sont là dans l'instant. Ressentir vraiment ce qu'on est en train d'éprouver. Écouter vraiment au lieu de juste entendre le bruit des pensées. Le refuge, il est dans la présence qui goûte à l'expérience plutôt que dans la tête qui va chercher la perfection ou le bonheur ailleurs, autrement. Parce que tout est là en fait, tout est dans l'esprit. Et je termine avec Ajahn Sumedho. La présence consciente est ton refuge, conscience du changement des ressentis, des attitudes, des humeurs, des situations et du changement émotionnel. Reste près de cela, c'est un refuge indestructible. Ce n'est pas quelque chose qui change, c'est un refuge en lequel tu peux avoir confiance. Ce refuge n'est pas quelque chose que tu crées, ce n'est pas une fabrication, ce n'est pas un idéal. Il est très concret et très simple, mais on peut passer à côté sans le voir. Quand tu es attentif, tu commences à voir que c'est ainsi. Donc ce que je vous propose pour la dernière assise en silence, c'est d'utiliser les pensées quand elles sont là pour apprendre à mieux connaître votre fonctionnement, identifier les habitudes mentales réactives ou les pensées qui sont des pensées de sagesse, de discernement. Voir les pensées pour ce qu'elles sont plutôt que croire à l'histoire qu'elles racontent. Si déjà vous pouvez juste remarquer que vous êtes en train de penser, c'est un premier pas important. Donc, nommer les pensées, identifier l'énergie qu'il y a derrière les pensées, toujours revenir à cette texture physique du moment présent, voir si la pensée est utile, bénéfique ou si elle est pas utile du tout, si elle est juste une habitude réactive. Et puis chercher à rester au contact du réel le plus possible. Vous pouvez imaginer que vous allez vous asseoir sur une terrasse avec votre esprit et puis que vous essayez d'en faire un ami. Vous entamez la conversation, puis vous regardez, ben voilà, vous êtes à l'écoute de ce qu'il est en train de vous dire. C'est une écoute qui est bienveillante, qui est non jugeante. Les pensées, elles ne sont vraiment pas l'ennemi à abattre. C'est juste qu'il faut voir plutôt que d'être constamment dans... croire à ce que ça raconte. Essayez peut-être aussi d'identifier vos tendances ou certaines croyances qui peuvent revenir comme ça. Voilà. Connaître